Bernard et Christine Storm, bonjour à tous les deux.
Bonjour Sandra.
Bonjour Sandra.
Et bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour cette émission sur l'appel de Fatima, d'après les écrits de Sœur Lucie depuis le Carmel de Coimbra au Portugal. Prions le Seigneur et notre Mère du Ciel en union avec les pastoraux de Fatima. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous
Donne-nous aujourd'hui
aujourd'hui notre
notre pain
pain
de
de
ce
ce
jour.
jour.
Pardonne-nous
Pardonne-nous
nos
nos
offenses,
offenses,
comme
comme
nous
nous pardonnons
pardonnons
aussi
aussi
à
à ceux
ceux
qui
qui
nous
nous ont
ont
offensés.
offensés.
Et
Et
ne
ne
nous
nous laisse
laisse
pas
pas
entrer
entrer en
en
tentation,
tentation,
mais
mais délivre-nous
délivre-nous
du
du mal.
mal.
Amen.
Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte
Sainte
Marie,
Marie,
Mère
Mère
de
de Dieu,
Dieu,
priez
priez
pour
pour
nous
nous pauvres
pauvres
pécheurs.
pécheurs,
Maintenant
maintenant et
et
à
à
l'heure
l'heure
de
de
notre
notre
mort.
mort.
Amen.
Amen.
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Comme
comme
il
il
était
était au
au
commencement,
commencement,
maintenant
maintenant et
et
toujours,
toujours, et
et
dans
dans les
les siècles
siècles
des
des
siècles.
siècles. Amen.
Amen.
Le 13 mai 1982, un an après l'attentat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre, Saint Jean-Paul II, pèlerin à Fatima, parlait du message confié par la Vierge Marie à Jacinthe, François et Lucie. Il disait, si l'Église a accepté le message de Fatima, c'est surtout parce qu'il contient une vérité et un appel qui, dans leur contenu fondamental, sont la vérité et l'appel de l'Évangile lui-même. Marie est venue à Fatima évangéliser notre siècle.
Lucie nous confie.
Je m'adresse à ceux qui ont la foi comme à ceux qui n'ont pas le bonheur d'avoir ce don de Dieu. Car nous sommes tous des pèlerins qui, consciemment ou inconsciemment, s'acheminent vers l'éternité. Innombrables sont les lettres que vous m'avez envoyées, pleines de questions et de demandes. J'aurais aimé répondre à chacune en particulier, mais comme cela m'est impossible, je réponds à tout en général avec ces appels du message de Fatima, message que Dieu a voulu me confier à l'intention de tous. Je le fais parce que je suis certaine que c'est la volonté de Dieu, reconnue par les instances autorisées, et j'offre pour tous le sacrifice que ce travail demandera de moi.
Maintenant, je désire passer en revue le message que le bon Dieu, par sa très sainte mère, a confié aux humbles pastoraux de la Cova d'Aïria, dans le but de renouveler ses appels de toujours en faveur de l'humanité d'aujourd'hui, notamment les pèlerins de Fatima. Dire pèlerin de Fatima, c'est dire pèlerin de la paix. Je crois même qu'il existe une langue dans laquelle Fatima veut dire paix. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous des pèlerins de la paix. Nous désirons des jours de paix, une vie de paix. Mais cette paix ne sera obtenue que si nous prenons la loi de Dieu comme norme et guide de nos pas. Or, tout le message de Fatima vise à orienter notre attention sur cette loi divine. Nous allons donc le suivre pas à pas et il nous indiquera le chemin que nous devons parcourir.
Quand les apparitions eurent lieu, je ne connaissais pas encore cette loi. C'est à peine si j'en avais quelque idée, une idée très imparfaite et limitée, comme tout autre enfant simple et ignorant, tel que je l'étais à l'époque, un enfant ne sachant ni lire ni écrire, vivant dans un milieu totalement dépourvu de culture et de science. Et quoique plus tard j'aie vécu dans des milieux plus cultivés, je dois avouer que j'ai acquis cette connaissance très lentement grâce à la lumière que Dieu m'a donnée au fur et à mesure. En effet, seulement bien longtemps après ces événements et après les avoir racontés, j'ai eu la permission de lire le livre de la Sainte Écriture. Et ce n'est qu'alors que je compris le vrai sens du message, même si je l'avais déjà compris avant, mais de façon moins concrète. L'appel à la foi.
N'ayez pas peur. Écoutez-moi. Je suis l'ange de la paix. Récitons une prière. Mon Dieu.
Mon Dieu.
Mon Dieu.
Je crois.
Je crois.
Je crois.
J'adore.
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 J'espère.
J'espère.
Et je vous aime.
Et je vous aime.
Et je vous aime.
Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon.
Je vous demande
pour
pardon.
Ceux qui ne croient pas.
Pour ceux qui ne croient pas.
Pour ceux qui n'adorent pas.
Qui n'adorent pas.
Qui n'espèrent pas.
Qui n'espèrent pas.
Et ne vous aiment pas.
Et ne vous aiment pas.
Et ne vous aiment pas.
Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications.
Nous étions au printemps 1916, je le suppose, car étant une enfant, je ne me souciais pas des dates. Je ne savais sans doute même pas quel jour nous étions. À cette époque, donc, les humbles pastoraux de Fatima se trouvaient sur l'un des versants de la colline du Cabeceau, comme on l'appelle, à l'abri d'un rocher qu'on appelait l'Oka.
Le premier appel que Dieu nous adresse ici par son envoyé est un appel à la foi. Mon Dieu, je crois. La foi est à la base de toute la vie spirituelle. C'est par la foi que nous croyons en l'existence de Dieu, en son pouvoir, en sa sagesse, en sa miséricorde, en son œuvre rédemptrice, en son pardon et en son amour de Père. C'est par la foi que nous croyons à l'Église de Dieu, fondée par Jésus-Christ et à la doctrine qu'elle nous transmet et par laquelle nous serons sauvés. C'est la lumière de la foi qui guide nos pas et nous conduit par la voie étroite qui mène au ciel. C'est par la foi que nous voyons le Christ dans nos frères, que nous les aimons, les servons et les aidons quand ils en ont besoin.
C'est encore par la foi que nous vient la certitude que Dieu est présent en nous et que nous sommes toujours sous son regard. C'est ce regard de lumière, tout puissant et immense, qui s'étend partout, qui voit tout, qui pénètre tout avec la netteté unique et exclusive du soleil divin. Devant celui-ci, le soleil que nous voyons et qui nous éclaire n'est qu'un pâle reflet, une faible étincelle émanant de la lumière de l'être immense qu'est Dieu. Ce que je viens de vous dire n'est pas une nouveauté. Saint Jean le dit déjà au début de son évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Jean 1, 1, 5. Dans ce passage, saint Jean nous parle de l'être éternel du Verbe de Dieu. Il nous dit que tout a été créé par lui, tout a reçu de lui son être propre. En vertu de son pouvoir, de sa bonté et de sa sagesse infinie, Dieu communique à tout ce qui existe les dons nécessaires pour subsister. Tout dépend donc de lui, et sans lui, rien ne peut continuer à exister.
Laissons un peu celui-ci pour revenir quelques instants dans le monde d'aujourd'hui.
Le président ukrainien a évoqué plus de 400 corps trouvés sur un site d'enterrement de masse près d'Izioum, avec des traces de torture, ceux qui sont morts à cause des frappes des missiles, les combattants des forces armées ukrainiennes. Sur place, les enquêteurs ukrainiens ont commencé à exhumer des corps dans une forêt près d'Izioum où 443 tombes ont été découvertes, avec notamment une fosse contenant le corps de 17 soldats ukrainiens, selon Oleg Kotenko, responsable gouvernemental pour la recherche des personnes disparues. Ces tombes sont surmontées de croix portant des numéros et pour certaines des noms et des dates. Les dates, selon toute vraisemblance, celle de la mort des personnes enterrées, vont de début mars, quand la ville était encore sous contrôle ukrainien, au début septembre, selon les journalistes de l'AFP et selon Oleg Kotenko. Certaines tombes pourraient renfermer plusieurs corps. Les tombes qui ne portent pas de nom sont celles de gens trouvés dans la rue, a précisé Oleg Kotenko, selon lequel il y a beaucoup de personnes qui sont mortes de faim. Cette partie de la ville était isolée, sans ravitaillement. Les gens étaient bloqués, rien ne marchait.
La plupart des croix sans nom sont en bois brut, celles portant les noms sont en bois verni ou peint et sont parfois ornées de fleurs. Sur l'une des tombes, un petit ver a été déposé en hommage à la personne décédée et vraisemblablement identifiée par la famille. Le chef de la police ukrainienne a, lui, annoncé la découverte de 10 salles de torture, y compris 6 à Izioum et 2 dans la ville de Balaklia. 99% des corps exhumés à Izioum présentaient des signes de mort violente. Il y a plusieurs corps avec les mains liées derrière le dos et une personne est enterrée avec une corde autour du cou. De toute évidence, ces personnes ont été torturées et exécutées. Notre Père du ciel se penche douloureusement sur ces enfants torturés et assassinés.
Un sondage récent du groupe Parma, un important institut de recherche sur les relations entre foi et culture, a découvert que moins d'1% des jeunes adultes aux États-Unis ont une vision du monde biblique. Le plus troublant est que d'après les résultats, moins de 0,5% des 18-23 ans qui se disent chrétiens ont une vision du monde biblique.
Une autre étude du séminaire Fuller a montré que le facteur principal qui déterminait si un jeune quittait l'Église ou non était l'existence d'un environnement sûr qui lui permettait d'exprimer ses doutes et interrogations par rapport aux Écritures et à la foi avant de quitter le foyer familial. Le plus important est que nos jeunes ont besoin d'adultes pour les guider dans leurs appréhensions. Ils peuvent trouver un tel refuge chez leurs parents ou dans le programme de jeunesse de leur Église. L'étude de Fuller montre cependant aussi que de plus en plus de programmes de jeunesse d'église avaient tendance à concentrer leur énergie sur le divertissement et les pizzas plutôt que sur l'affermissement des jeunes dans la foi. Par contre, nos jeunes ne sont pas préparés pour faire face aux défis auxquels ils seront confrontés dans le monde en quittant leur foyer.
De plus, deux études menées conjointement par le groupe Parma et par USA Today ont montré que près de 75% des jeunes chrétiens quittent l'Église après le lycée. Une des principales raisons à cela est le scepticisme intellectuel, conséquence d'un manque d'enseignement de la Bible dans leur foyer et Église. Les statistiques montrent que nos jeunes passent aujourd'hui 30 heures par semaine en moyenne dans les écoles publiques, où on leur enseigne des idées diamétralement opposées aux vérités bibliques, comme l'évolution, l'acceptation de l'homosexualité, etc. Puis rentrent et passent 30 heures de plus par semaine devant la télévision, qui les bombarde de publicités obscènes et de séries tendancieuses, ou encore sur Internet, connectés à leurs amis sur Facebook, à chatter ou jouer en ligne. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que nos jeunes quittent leur foyer sans une vision du monde biblique. Non seulement ils ne sont pas affermis dans la foi, mais on ne leur apprend pas non plus à examiner avec une intelligence critique les théories sceptiques qui poseront inévitablement un défi à leur foi. La plupart de ces étudiants ne sont pas prêts à entrer à l'université, où plus de la moitié des professeurs sont hostiles à la foi chrétienne et profiteront de chaque occasion pour les ridiculiser, eux et leur foi. Lucie, un siècle après le miracle du soleil devant 70 000 personnes, que peux-tu nous enseigner de compréhensible pour notre monde matérialiste?
La foi, ce n'est pas seulement croire en l'existence de Dieu, en son pouvoir et en sa sagesse. Il y a bien d'autres domaines qui la concernent et qui requièrent notre pleine adhésion. La parole de Dieu contenue dans les pages sacrées est une révélation que nous ne pouvons pas refuser parce que, comme nous le déclare Jésus-Christ dans son évangile, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. » Jean 14, 10, 11. Nous voyons que Jésus-Christ attire notre attention sur ses œuvres parce que les œuvres sont le vrai témoignage de ce que chacun est et qui confirme sa parole. C'est pourquoi, quand saint Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus s'il est le Messie, ou si l'on doit en attendre un autre, Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Matthieu 11, 4, 5. Puisque personne, si ce n'est Dieu, ne peut faire ces miracles, Jésus confirme par eux sa parole et son pouvoir de vie. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Nous le voyons, la parole de Jésus-Christ est la parole de Dieu parce que Jésus-Christ est Dieu, en tout égal au Père. Et il peut dire, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. En effet, Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35.
Chère Lucie, voici où nous en sommes actuellement. Les jeunes d'aujourd'hui se demandent ce que vaut la foi chrétienne face à tous ces concurrents idéologiques du monde. Les idées relativistes du type « chacun sa vérité » ou « Jésus n'était qu'un grand enseignant spirituel parmi d'autres » sont de plus en plus acceptées par la société. En quittant leur foyer, nos jeunes doivent être formés pour répondre à leurs amis incroyants et leur rendre raison de l'espérance qui est en eux. 1 Pierre 3,15. Dieu existe-t-il réellement? Pourquoi permet-il la souffrance dans le monde? La Bible est-elle fiable? Y a-t-il une vérité absolue? Nos jeunes devraient être mieux enracinés dans leur foi que ceux de convictions différentes, pas seulement pour eux, mais pour ceux qui leur poseraient des questions. La foi chrétienne est la vérité, et cette vérité doit pénétrer leur esprit. Ils devraient être préparés pour répondre aux questions intellectuellement et spirituellement complexes auxquelles ils seront confrontés en quittant leur foyer. Un solide programme apologétique, l'apologétique étant la défense de la vérité, est impératif pour leur permettre de connaître et de défendre la vérité des Écritures et l'authenticité de la foi chrétienne. Comment faire, Lucie?
On m'a posé à différentes reprises cette question. Mais comment pouvons-nous savoir quelle est la véritable Église du Christ? Les théologiens, eux qui ont étudié, seraient mieux placés que moi, pauvre et ignorante, pour vous répondre. Et je n'oserais pas le faire si le texte sacré ne nous éclairait là-dessus. Saint Matthieu raconte que, ayant poussé avec ses apôtres jusqu'à la région de Césarée de Philippe, pendant la traversée du lac, le maître les avait mis en garde contre les fausses doctrines des pharisiens qui ne croyaient pas en lui. Jésus-Christ leur posa la question suivante, « Pour vous, qui suis-je ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. » Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Matthieu 16, 15, 19. C'est ainsi que Jésus-Christ a constitué Saint-Pierre chef et tête visible de son Église sur terre, avec tous les pouvoirs pour la gouverner, la diriger et l'instruire, sous l'action et l'assistance permanente de l'Esprit-Saint. Le Maître divin lui a accordé le don de l'infaillibilité grâce à cette assistance. S'il n'en était pas ainsi, je crois que Jésus-Christ n'aurait pas pu s'engager à estimer bon au regard du ciel tout ce que ses représentants feraient sur terre en son nom. Nous savons tous très bien que tous les hommes, simples créatures, sont susceptibles de défaillances et d'erreurs. Par conséquent, ce que l'infaillibilité de l'Église nous garantit, c'est l'assistance de l'Esprit divin que Jésus-Christ a promis. Ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 24, 26. Et le Seigneur reprend ce sujet en disant, lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il vous guidera dans la vérité tout entière. Jean 15, 26, 16, 13.
Tu sais, Lucie, pour les jeunes, même ceux qui fréquentent une église, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas critiques à son égard. Parmi les jeunes pratiquants, la moitié environ pense que l'église semble rejeter pas mal de choses de ce que nous dit la science sur le monde. 49% et plus d'un tiers qu'elle est hyper protective avec les adolescents. Un autre tiers environ pense qu'à l'église, les gens sont hypocrites, 36%. Enfin, près des deux tiers déclarent que fréquenter l'église n'est pas important pour eux et affirment trouver Dieu ailleurs, 61%. Lucie, toi qui as eu la grâce de parler à Notre-Dame, que peux-tu dire à notre jeunesse?
Nous voyons que Jésus prie le Père non seulement pour les apôtres, mais aussi pour nous tous, qui un jour croirons en lui et en sa parole, transmise par les apôtres et leurs successeurs. Et que demande-t-il au Père? Que les membres de son Église demeurent unis entre eux afin de n'être qu'un. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour eux aussi, ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, afin que tous soient un, et ceci afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, et qu'ils soient parfaits dans l'unité. Par ces paroles, Jésus-Christ nous révèle quelle doit être l'unité de son Église, une et une seulement, une seule unité qui n'admet pas de partage. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, unis par la même foi, la même espérance et la même charité.
Avant cette prière à son Père, Jésus prend le temps de parler avec ses disciples et il leur dit à un moment donné « Demeurez en moi et moi en vous, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. » Jean 15, 4, 6. Dans cette allégorie de la vigne et des sarments, nous voyons que la vie des membres du corps mystique, qui est l'Église, dépend de leur union au Christ. C'est lui la tête de l'Église en la personne de son représentant. Et nous sommes les membres, il est la vigne, nous sommes les sarments. Tout comme le sarment qui, une fois séparé de la vigne, devient sec et ne produit plus de fruits, nous nous séparons, nous aussi, par le péché, du vrai cep de la vigne qui est le Christ. Nous ne nous nourrissons plus de la sève de sa grâce. Nous dépérissons, nous devenons secs, nous ne produisons plus de fruits, et nous ne sommes plus bons que pour le feu éternel.
Voilà clairement exposé le sort de ceux qui, dévoyés par des idées erronées, par les tentations du monde, du démon ou de la chair, se laissent entraîner et se séparent du vrai corps mystique du Christ qui est l'Église. Nous ne devons pas les suivre, mais prier et nous sacrifier pour eux, afin qu'ils reviennent sur le bon chemin, car Dieu ne veut pas que le pécheur se perde, mais qu'ils se convertissent et vivent. C'est pourquoi Notre-Dame nous a tant recommandé la prière et le sacrifice pour la conversion des pécheurs. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Fatima, le 19 août 1917. Par notre union avec le Christ, avec son Église, nous devons donc devenir des victimes d'expiation et de supplication pour la conversion de nos frères. C'est là le sommet idéal de notre charité. Aimer ceux qui peut-être disent du mal de nous, qui nous contredisent et nous persécutent. Le pardon que nous leur offrons à la lumière de la foi, de l'espérance et de la charité les attirera à nouveau dans les bras de Dieu.
voyez ce que fait le soleil? Ses rayons font tout briller comme les étoiles dans la nuit. Les étoiles sont les chandelles des anges.
Et la lune? C'est la lampe de Notre-Dame?
Oui, mais le soleil est bien plus beau. C'est la lampe de notre Seigneur.
Moi, je trouve qu'elle est bien plus jolie, la lampe de Notre-Dame. Elle me fait pas mal aux yeux.
Lucie, pouvons-nous encore croire aujourd'hui? Le chrétien doit se poser cette question. Il ne lui est pas permis de recourir simplement à toutes sortes de détours et de subterfuges pour donner une interprétation du christianisme qui ne choque plus. Quand par exemple un théologien prétend que la résurrection des morts signifie seulement que l'on doit travailler chaque jour sans se lasser à l'œuvre de l'avenir, le choc est sans doute évité. Mais sommes-nous restés honnêtes? Disons-le franchement, un tel christianisme évacué de toute substance par de semblables interprétations accuse un manque de sincérité à l'égard des problèmes de l'incroyant. Donc le peut-être devrait nous troubler, comme nous souhaitons que le peut-être chrétien le trouble lui. Dans ce commentaire du Credo qu'il écrivit lorsqu'il était professeur de théologie à Tübingen, Joseph Ratzinger développe une réponse claire aux questions « Comment croire aujourd'hui ?» Et que faut-il croire?
Jésus-Christ, nous l'avons vu, a choisi Saint-Pierre pour le faire chef et tête visible de son Église sur terre. Il lui a confié le dépôt de sa doctrine pour qu'il la garde et l'enseigne, avec tous ceux qui demeurent unis à lui dans la même foi, dans la même espérance et dans la même charité. Saint Jean nous raconte que Jésus-Christ, un jour après sa résurrection, a attendu sur le rivage les apôtres qui étaient allés pêcher. Quand ils furent descendus de la barque, il leur servit du poisson grillé et du pain. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, lui dit-il. » « Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Jean 21, 15, 17. Jésus-Christ a confié aux soins de Saint-Pierre tout le troupeau qu'est son Église, les agneaux et les brebis et les bergers. L'Église véritable du Christ est donc formée par tous ceux qui sont restés unis à Pierre par la même foi, par la même espérance et par le même amour, qui est la charité du Christ. Dieu est charité, il exige donc de son représentant sur terre une proclamation d'amour répétée trois fois.
Lucie, parfois nous entendons dire « Je suis croyant, mais je ne pratique pas ». Une telle parole révèle-t-elle un christianisme sincère et réel? Peut-on être croyant sans pratiquer sa foi, sans changer nos valeurs et nos pratiques, sans aucune appartenance à une communauté chrétienne? Suffit-il d'être né dans une famille chrétienne, de croire que Dieu existe, de recevoir les sacrements, de ne faire de mal à personne, de mener une bonne vie, d'aller à l'église depuis sa jeunesse, d'accomplir ses devoirs religieux ou encore d'accepter Jésus dans sa vie pour être chrétien?
L'Église de Dieu est l'Église de la charité et de l'amour. C'est bien ce que Jésus-Christ a demandé au Père juste avant de se livrer à la mort pour nous. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient comme un comme nous. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 11, 20, 23. Nous voyons que Jésus-Christ prie le Père non seulement pour les apôtres, mais aussi pour nous tous, qui un jour croiront en lui et en sa parole, transmise par les apôtres et leurs successeurs. Et que demande-t-il au Père? Que les membres de son Église demeurent unis entre eux afin de n'être qu'un. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Et ceci afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, et qu'ils soient parfaits dans l'unité.
Lucie, si la question de l'utilité de la foi s'impose avec plus de force en ces temps qui sont les nôtres, ce n'est pas un hasard. Sans doute ne se posait-elle pas de la même manière à une autre époque, où l'on se préoccupait moins de tout rentabiliser. Mais aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, ce qui ne sert à rien ne fait pas le poids. Pourquoi perdre son temps à des choses qui n'ont aucune utilité? Vous me direz qu'il y a bien des jeux vidéo qui prennent beaucoup de temps et qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à passer le temps et à rapporter des sous à ceux qui les vendent. Mais ce n'est pas une réponse à notre question. Si le spirituel qui ne fabrique rien fait figure d'intrus dans notre monde, c'est peut-être que, précisément du point de vue de ce que l'on cherche le monde, il ne sert à rien.
L'Église de Dieu est apostolique. Elle a été confiée par Jésus-Christ aux apôtres et à leurs successeurs qui ont reçu de lui le témoignage fidèle de la rédemption avec la mission de le rendre présent et vivant jusqu'aux confins de la terre et jusqu'au terme de l'histoire. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18, 20. Jésus-Christ nous assure ici que non seulement il confie son Église aux apôtres, mais aussi qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde en la personne de leur successeur. Cette présence du Seigneur dans son Église doit fortifier notre foi, notre espérance et notre charité, parce que l'Église de Dieu, c'est le Christ parmi nous, c'est le Christ en chacun de nous, en tant que membre de son corps mystique, de son Église. Nous disons encore que l'Église du Christ est romaine, parce que saint Pierre a été le premier évêque de Rome. Comme chef et tête visible de l'Église du Christ, il y a établi la chaire du souverain pontife, qui est le chef et la tête visible de la seule véritable Église de Dieu fondée par Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui sont légitimement élus évêques de Rome sont de plein droit les vrais successeurs de Saint-Pierre en tant que représentants du Christ sur terre, chef et tête visible de son Église. C'est le Saint-Père. Par conséquent, nous unissons notre prière à la prière du Christ en demandant au Père l'unité de son Église pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père et pour que, unis dans la même foi, dans la même espérance et dans la même charité, nous formions tous un même corps mystique du Christ et soyons tous sauvés par lui.
Lucie, au cours des autres étapes de préparation de Vatican II, les relations entre l'Église catholique et les religions n'étaient pas à l'ordre du jour. Cependant, le projet d'une déclaration sur la question juive a entraîné de fil en aiguille l'examen de l'attitude des chrétiens à l'égard des autres communautés de croyants, non sans lien avec le débat sur la liberté en matière de religion.
Assurer que la véritable Église de Dieu est l'Église catholique, apostolique et romaine, fondée par Jésus-Christ, continuée par les apôtres et leurs successeurs, nous devons tous rester en union avec elle dans la même foi, la même espérance et la même charité, en nous conformant à ses orientations et en parcourant les chemins qu'elle indique, parce qu'elle est dépositaire de la vraie loi de Dieu et de la doctrine enseignée par Jésus-Christ. Nous devons la croire, lui faire confiance, la respecter, l'aimer, écouter ses enseignements, suivre ses traces et rester unis à son chef. Celui-ci est le Christ en la personne du souverain pontife de Rome, seul vrai vicaire du Christ sur la terre, tête du corps mystique du Christ dont nous sommes les membres par la foi au Christ, comme nous le dit l'apôtre saint Paul. Aussi bien est-ce un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juif ou grec, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Corinthiens 12, 13, 14. Et la lettre aux Éphésiens nous éclaire ainsi sur cette unité avec le Christ qui est la nôtre. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui constitue les arbres de notre héritage et prépare la rédemption du peuple. Éphésiens 1, 13, 14. Nous avons donc été créés et choisis par Dieu pour être la louange de son éternelle gloire. Être la louange de sa gloire, c'est la fin la plus haute à laquelle Dieu pouvait nous destiner. C'est avoir en nous, par participation, la gloire de Dieu par laquelle nous pouvons le louer. C'est posséder l'honneur de Dieu par lequel nous pouvons l'exalter. C'est être revêtu de la dignité du Christ par laquelle nous pouvons l'honorer. C'est contribuer à ce qu'il accroisse cette dignité dans les membres de son corps mystique, afin que chacun en devienne toujours plus digne. À cet effet, il nous faut montrer un total abandon au Seigneur dans une vie de foi, d'espérance et d'amour.
Merci, Lucie, de nous avoir laissé tous vos écrits qui nous sont d'un grand secours aujourd'hui.
Prions ensemble avant de nous quitter afin de réaffirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs?
Oui, nous le voulons.
Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'Appel de Fatima avec Bernard et Christine Storm. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.